Chers auditeurs, bonjour. L'Observatoire des imaginaires ruraux, les nouveaux terriens, vous propose cette deuxième partie de la non-conférence proposée par l'atelier paysan à Saran dans le Gers, non-conférence donc qui a été réalisée en fin d'année 2021 et qui présente le livre manifeste Reprendre la terre aux machines, réalisé par l'atelier paysan. À noter que vous pouvez écouter la première partie sur le site de l'association www.lesnouveauterriens.fr. Pour cette seconde partie, on écoute donc Jean-Claude Balbeau et Emmanuel Haz parler d'alimentation, d'agriculture et les solutions envisageables. Bon, je rappelle à tout hasard que si nous avons décidé de diffuser cette non-conférence, c'est parce que justement, en termes d'imaginaire, elle est très puissante, puisque la proposition qui est faite, alors dans le cadre de cette non-conférence, c'est carrément de créer une société paysanne. Mais bon, pour en arriver là, je vous conseille d'écouter la suite. On se retrouve à la fin.
Je peux décrire brièvement comment on en est arrivé à la Confédération paysanne à se pencher sur cette articulation entre l'agriculture et l'alimentation. Autant que je me souvienne, ça date d'un conflit interne politique concernant le positionnement de la Confédération paysanne sur les pesticides. À l'époque, il y avait un espace où on est organisé en commissions thématiques, des commissions de production et des commissions transversales qui traitent de problèmes partagés par les différentes productions. Et on a une commission pesticides. À l'époque, elle était surtout peuplée d'apiculteurs. Et depuis une dizaine d'années, de ce que j'ai cru comprendre à l'époque, les positionnements, la communication à la Confédération paysanne sur les pesticides étaient très, très. Enfin, se rapprochait beaucoup du discours des organisations environnementalistes qui, culturellement, enfin, portent un discours centré sur la question des impacts et très peu sur les sources, les raisons, les racines, du problème. Et en fait, ce qui s'est passé, ce en quoi ça a créé une tension, c'est qu'en fait, dans cette culture-là centrée sur les impacts, qui est un petit peu aveugle quant aux raisons sociales, historiques, économiques du recours aux pesticides en agriculture, ben finalement, lorsqu'on n'a pas ces éléments explicatifs, c'est un discours sur les tenants, ben, on en arrive vite, parce que c'est aussi la nature de l'époque, hein, l'imaginaire social de l'époque, à imputer finalement la source du problème. Enfin, à imputer à la responsabilité individuelle des paysans, finalement, la faute du recours aux pesticides. Et c'est de là qu'est parti ce conflit. Il était assez manifeste qu'à l'époque, d'un point de vue environnementaliste, essayer d'expliquer, finalement, le concours de facteurs qui est à la source de cette dévastation, qui est l'invasion de notre agriculture par les pesticides. Eh ben, c'était une tentative de relativiser les impacts, alors que, en fait, comprendre la source d'un problème, c'est se donner, il me semble, les moyens de le résoudre, ou en tout cas de le dépasser. Donc, on a travaillé à élucider, à apporter un discours plus cohérent avec ce qu'on appelle le discours d'un syndicat de défense des paysans, et on a donc petit à petit élaboré une analyse économique du recours aux pesticides en agriculture, en particulier concernant les productions de fruits et légumes, dont je mentionnais tout à l'heure qu'elles étaient soumises à des distorsions de concurrence massives au sein du marché unique européen, contexte dans lequel le recours aux pesticides est vécu souvent par les paysans comme le recours à une arme d'autodéfense, finalement, dans une guerre économique systématique et généralisée. Donc on a commencé, à partir de ce sujet particulier, à sortir un petit peu de cette lecture et d'un discours qu'on tenait à l'époque, qui était finalement philosophiquement relativement individualiste. C'est-à-dire que les ressorts finalement de la diversité des agricultures qu'on pouvait que constater sur le terrain, eh ben, on avait tendance à l'imputer à la diversité, enfin implicitement, hein, on se garde bien évidemment d'accuser des individus, mais finalement, on avait tendance à l'époque quand même à considérer qu'être sur les agricultures vertueuses, c'était l'expression d'une forme de supériorité morale en quelque sorte. Et que donc, transformer l'agriculture, ça devait passer par la responsabilisation des autres paysans que nous, et également finalement la responsabilisation des consommateurs eux-mêmes, une partie d'entre eux, nourrissant par leur mode de consommation le succès de l'agriculture industrielle. On était un petit peu implicitement dans cette lecture très aplatie finalement de nos réalités agricoles et alimentaires et relativement aveugle des effets de structure finalement, des effets systémiques qui font que coexistent des agricultures qui cherchent à relever de l'intérêt général et d'autres qui sont soumises aux logiques de compétition et aux logiques de marché. Parallèlement, alors tu disais que le complexe agro-industriel et l'industrie agroalimentaire avaient besoin économiquement de la pauvreté, mais elle en a besoin également au plan politique. Et ça, à la même époque, on s'est retrouvé reçu par ce même ministre de l'Agriculture que tu citais, Stéphane Le Foll, là, suite aux actions, la série d'actions qu'on avait menées l'année précédente, en 2014, à l'usine des 1000 vaches en Picardie, dont vous vous souvenez peut-être, on s'était retrouvé là, 9 inculpés pour dégradation et autres. On avait agi sur place. Ouais.
Condamné
en première instance, oui. On avait agi sur place, je rappelais ça brièvement, parce qu'en fait, le promoteur, qui est un industriel du bâtiment, le promoteur de cette usine de 1000 vaches, là, se vantait d'avoir construit un modèle économique en couplant la production laitière et la méthanisation, un modèle économique qui allait lui permettre de commercialiser du lait de vache à 18 centimes, alors que les coûts de production, je crois, à l'heure actuelle, sont de l'ordre de 36 centimes d'euros. 36 centimes le kilo, le litre. Et c'était un motif de fierté pour ce monsieur Ramery. Et donc, voilà, il se targuait de faire du lait un sous-produit de la production énergétique, grosso modo. Ouais. Et il allait évidemment mettre en danger considérablement le bassin laitier dans lequel il s'était inscrit, puisque, bien sûr, c'est le moins offrant qui fournit aux industries de Laval les arguments pour comprimer le prix d'achat des autres. Donc, c'était le motif d'intervention de la Confédération Paysanne dans cette série d'actions. Et on s'était retrouvé reçu, là, je trouve que j'étais l'un des inculpés, on avait été reçu par Le Foll à notre demande quelques temps après, où il avait joué une espèce de connivence avec nous, en disant, bon, vous savez que ce modèle-là, hein, l'usine des 1000 vaches, ça n'est pas mon modèle, mais vous devez quand même, comme moi, lui reconnaître un mérite. Ce modèle d'agriculture industrielle a le mérite, de fait, de produire une alimentation accessible aux plus pauvres. Argument très difficile à parer, dans la mesure où, effectivement, l'agriculture industrielle a cette force relativement aux agricultures paysannes, aux agricultures qui soucieuses de l'intérêt général, à cette force de produire des prix artificiellement bas en socialisant une partie de leurs coûts. Une partie de leurs coûts liés notamment au recours à diverses technologies qui permettent concrètement de maximiser les rendements, donc de diminuer les coûts unitaires de production, mais en externalisant, en socialisant les conséquences environnementales, type dépollution, dépollution de la flotte et des sols dû aux pesticides. Il y a le traitement social du chômage, puisque la robotisation, la mécanisation à outrance ou les pesticides sont faits pour réduire la part de travail, hein, dans la production. Donc il y a une incidence sur l'activité des humains et leur situation de chômage. Il y a également, on peut citer évidemment les coûts
pour la santé publique, les coûts économiques et évidemment humains, mais là on parle d'économie, donc le coût de traitement des cancers et des maladies neurodégénératives liées au recours aux pesticides massifs en agriculture. Donc c'est ça, hein, cette force, cet avantage compétitif, on pourrait dire, pour reprendre le langage de l'adversaire, cet avantage compétitif de l'agriculture industrielle vis-à-vis des agricultures d'intérêt général, à produire des prix artificiellement bas, qui permettent, dans cette dynamique de compression des coûts de production, par révolution, entre guillemets, technologique successive, qui permettent de comprimer la part du budget alimentaire dans le budget des ménages, et incidemment, de resolvabiliser la demande pour d'autres biens de l'économie capitaliste, finalement. Sans une compression continue de la part du budget alimentaire des ménages, eh bien, le système économique dans son ensemble, le système capitaliste libéral, aurait bien du mal face à son espèce de biais interne, qui est qu'il produit toujours plus, par diverses évolutions technologiques, mais pour toujours moins, mais avec de moins en moins de travail, que par ailleurs il tend à rémunérer de moins en moins. Du coup, c'est un système qui détruit la demande pour ses propres productions. Il y a ça, il y a évidemment les enjeux quant à la paix sociale. Hein. Les politiques néolibérales qui succèdent créent énormément de précarité et de pauvreté, que ce soit la réforme du chômage en cours ou la future réforme des retraites ou précédemment la démolition du droit du travail, tout ça, évidemment, crée de la pauvreté et de la précarité. Et un pouvoir qui mène ces politiques-là et qui, parallèlement, n'assure pas d'une manière ou d'une autre une assiette dûment garnie, au moins au plan calorique, à la population, généralement, ça se finit très mal pour lui. Comme d'ailleurs les pouvoirs en place au Maghreb ont pu le vérifier au début des années 2010, hein, puisque la plupart des printemps arabes, on s'en souvient, ont commencé, suite à l'explosion des prix alimentaires liés à la réaffectation finalement de volumes financiers monumentaux en 2008 des marchés des produits dérivés vers le marché des matières premières, notamment agricoles.
Capture la démocratie, on connaît en termes économiques, hein, il suffit de se référer à l'histoire du complexe militaro-industriel autant aux États-Unis qu'en URSS pour savoir comment ça débouche sur une capture du fonctionnement démocratique des sociétés. Donc le modèle agro-industriel français, il a pris cette voie-là, il a constitué un complexe agro-industriel auquel on ne peut pas nous affronter juste par le biais d'une offre supplémentaire. Et c'est ce qu'on fait. Vous venez avec une offre supplémentaire sur le marché qui a été défini par d'autres. Vous venez avec un label supplémentaire. Et puis quand votre label est usé, vous en créez un autre. Et puis plus encore un autre. Et puis à la fin, le produit, il n'est pas assez long pour coller toutes les étiquettes que vous avez créées. Et du coup, il y aura des emballages, il y a trop d'emballages, on ne sait plus que faire, on ne sait plus par quel bout prendre l'affaire. Donc les propositions sur lesquelles on a débouché, c'est justement, les analyses nous ont amené, alors cette proposition pour le coup, à présenter les choses autrement. Et là, alors déjà, il faut faire le constat de l'impuissance, hein, qui n'est pas facile à faire, mais il faut le faire et bien l'intégrer. C'est très difficile, hein, très très difficile, très coûteux de faire ce constat-là, que ce qu'on a fait est absolument indispensable. Si on ne l'avait pas fait, et vous avez participé à le faire, il y a des clients d'AMAP, certainement ici, là, des choses de ce type-là qui sont remarquables. Si on n'avait pas fait tout ça, on ne pourrait pas aujourd'hui être en train de critiquer ce modèle industriel d'abord, parce que certains d'entre nous seraient simplement morts. Et si on n'avait pas fait ça, on serait totalement incapable de faire cette critique. Mais pour autant, ayant fait ça, on est totalement impuissant dans la situation actuelle pour renverser ce mouvement. Je vous disais qu'il y a 26 millions de Français, je ne veux pas non plus exagérer, qui se déclarent insatisfaits de leur alimentation. S'il n'y a pas là des alliés à trouver pour des paysans comme nous ou des consommateurs comme vous, je ne sais pas où ils sont ailleurs, quoi. Et donc il y a ces alliances à créer. Et on dresse, nous, par exemple, quelques pistes, propositions autour de la question de la socialisation de l'alimentation et de la nourriture qui ont cette intention-là d'aller chercher un mouvement populaire autour de l'alimentation, de l'insatisfaction qui est liée, pour que l'agriculture puisse changer. Proposition gouvernementale, avec le... c'est enregistrer une fois pour toutes que d'abord nous ne serons plus que 250 000 producteurs de nourriture dans les années qui viennent, et même plus quand Neil, là, un du troupeau de Macron, là, crée une école d'agriculture à Paris. Dans les attendus de la création de cette école, il est marqué, dans un horizon assez bref, il y aura 170 000 personnes à produire de la nourriture. Il faut absolument que ces personnes-là apprennent à manipuler les robots, les joysticks, et tout ça, c'est la seule manière de faire. Donc nous avons en face de nous une proposition de la Startup Nation, pour le dire en anglais, très mal. Et nous devons dire, nous, ce que nous voulons, c'est une société paysanne. C'est une société où nous allons pouvoir commencer à rediscuter de notre nourriture de manière démocratique, dire ce que nous voulons manger, chercher les moyens de la produire, et voir si les coûts sont supportables par l'environnement, etc. Ce genre de questions là, qu'on est capable, je pense. Et c'est là, je vois pas, enfin personnellement, je vois pas d'autres propositions politiques. J'en vois pas malheureusement dans le spectre politique aujourd'hui. J'en vois pas à long terme d'autres propositions qui nous feront, qui sont capables de faire face à cette start-up nation qui va s'occuper demain de notre alimentation et accentuer les inégalités alimentaires. Il y a beaucoup de nos camarades des différentes organisations qui ont, pendant le confinement, ont cru qu'ils étaient au paradis, que le paradis était arrivé, que la consommation des Français était définitivement engagée vers eux. Oui, vous savez, qui nous ont dit, nous, alors que nous étions justement en train de décrire le malheur des choses, ben voyez, vous avez tort. Voilà, le paradis est sur Terre finalement. Et que deux jours après la fin du confinement, c'était réglé l'affaire. Les fermes qui avaient des queues de voitures devant, il n'y en avait plus aucune. Et ce qu'on a entendu, et ce n'est pas surprenant parce qu'on le savait, c'est que les conditions de vie actuelles de la population ne nous permettent pas de nous nourrir comme on le souhaite. Nos conditions de vie et de travail, pour ceux qui travaillent, je ne sais pas si c'est une chance, disons pour ceux qui ont une chance de travailler, ne nous permettent pas de manger, de s'alimenter, d'aller chercher la nourriture à l'endroit où il faut. Et nous le savons très bien. C'est en conscience que nous ne nourrissons pas comme nous le souhaitons. Il n'y a personne qui se lève le matin pour donner des pesticides à son gamin. Il n'y a personne qui se lève le matin pour donner trop de gras, trop de sel, trop de sucre à son gamin. Et pourtant, nous le faisons, et massivement. Et massivement, 70% d'entre nous ne se nourrissent que de nourriture industrielle. Et 95% de la nourriture fournie en France est de la nourriture industrielle, donc susceptible de contenir trop de sel, trop de gras, trop de mou, plus des pesticides, plus des perturbateurs endocriniens, plus tout un tas de produits. Et nous le savons tous. Personne n'ignore aujourd'hui en France, c'est tout simplement pas possible d'ignorer en France, qu'on prend des risques en se nourrissant. Et qu'on donne des risques, surtout à la génération qui arrive. On va le voir, ça va nous péter à la gueule. D'ailleurs, les chiffres arrivent petit à petit sur la prévalence des maladies alimentaires qui vont dépasser le cas classique des maladies cardiovasculaires et de l'obésité, tout ça. Il y a tout un tas de domaines. Alors, il y a les maladies professionnelles agricoles, type le cancer de la prostate, ça y est, c'est venu. On sait officiellement que même si c'est 40 ans que vous avez traité avec des produits, eh bien aujourd'hui, 40 ans plus tard, vous pouvez faire un cancer de la prostate caractérisé comme une... Donc la population est informée. Nous sommes tous informés de ça. Donc pourquoi nous ne réagissons pas? Parce que nos conditions de vie, nos vies sont industrialisées. La manière dont nous travaillons, c'est industrialisé comme l'alimentation. L'alimentation n'est qu'un des reflets. Nous parlons de l'alimentation parce que c'est notre travail. Parce que, ma foi, c'est de là qu'on est parti. Mais nos vies sont industrialisées. Et d'ailleurs, on fait porter sur l'alimentation, au-delà de la fonction support, sur l'agriculture, pardon, au-delà de la fonction support pour d'autres exercices, on lui fait porter aussi des choses qu'elle n'aurait, que vous ne faites pas porter sur... Alors que nous ne faisons pas porter sur autre chose, comme on est habillé, comme on se déplace en voiture, comme on construit nos maisons. Si on appliquait les mêmes raisonnements autour de la qualité bio, par exemple, de tout ça, ça changerait profondément. Donc on fait porter à la nourriture quelque chose qu'on ne fait pas porter au reste des choses. Et c'est peut-être logique, parce que la nourriture, c'est quelque chose qu'on met en nous. Le reste est en extérieur. Mais il y a bien cette certitude que nous devons avoir, parce que c'est du coup la démocratie qui est en cause, que si nous laissons le choix à l'ensemble de la population de définir sa nourriture, elle se rapproche de ce que nous mangeons tous. là, comme nous sommes, c'est-à-dire sans pesticides, sans engrais, sans produits de synthèse et sans tout ce que vous voudrez derrière, avec une industrie qui transformera moins. Personne ne se lève le matin pour bouffer ça. Mais par contre, quand on fait cet exercice-là, qu'on propose de faire, notamment par exemple en créant une branche alimentation dans le régime général de sécurité sociale, de mettre les Français dans la situation de connaissance de cause de cette alimentation et de cette production, et de choisir ensemble pour conventionner les producteurs. Bon, je l'ai fait trop court. Mais quand on laisse la possibilité à la population, quand nous laissons la possibilité d'exprimer ce que nous souhaitons, et que nous exprimerons ça, c'est avec quasi certitude, parce que c'est ce qui a été fait pendant le confinement, eh bien là, il faudra qu'on se dise qu'avec 400 000 paysans, c'est strictement impossible, mais alors absolument impossible de répondre à cette demande. Dire qu'on va vous nourrir comme vous le souhaitez à 400 000, c'est un mensonge pieux. Vous en nourrirez à peine 20%. Et encore, je ne suis même pas sûr qu'on y arrivera. Il est absolument indispensable d'avoir des pesticides et des machines aujourd'hui pour nourrir les Français. Aucun doute là-dessus. Pour les alimenter, alors disons, comme on alimente le bétail. Le slogan de la conf était, il y a encore 10 ans, on l'entend moins maintenant, 1 million de paysans. Et 1 million de paysans, oui, en effet, c'est le double de ce qu'on est aujourd'hui, donc c'est déjà une ambition énorme. Et depuis, Terre de Liens, l'association que tu évoquais tout à l'heure, a voulu essayer d'affiner ce chiffre-là et de comprendre à partir de combien de producteurs on pouvait penser qu'on pourrait se passer de pesticides, donc les pesticides étant une machine qui remplace le travail, hein, tout simplement, il n'y a pas, de pesticides et de machines, quoi, de diminuer la machine, de se passer du numérique, et de se passer des pesticides, qui est une autre forme de machine. Et ils sont arrivés, par des calculs, autour du halo alimentaire des villes, des zones urbaines, au chiffre de 1,5 million de producteurs, aujourd'hui nécessaires, ce qui est logique, puisque la population a augmenté entre-temps. Il faudrait qu'il y ait 1,5 million de producteurs pour qu'on puisse dire « Nous allons faire, en gros, pour aller très vite, nous allons faire du bio pour tout le monde. » Ça, c'est vraiment pour couper à travers. Et ça, quand on a écrit le livre, voilà. Quand on a écrit le livre, on a écrit ça. On a dit « Il faut 1 million de paysans, voilà, c'est juste. » Et au moment où on écrivait ça, on l'a écrit, donc on n'est pas revenu sur nos propos, mais au moment où le livre est sorti, on s'est regardé et puis on s'est dit « Putain, mais ça, c'est ce qu'on a vécu, nous. » 1 million de producteurs pour faire du bio, mais c'est le bagne. C'est le bagne pour les gens qui vont travailler, là. Ils vont faire 70 heures par semaine à faire du produit bio à la main, à faire de la transformation, de la vente directe, et ils vont se faire ces 70 heures. Je vois pas pourquoi ils seraient bien plus payés que nous, on l'a été, c'est-à-dire à peu près le SMIC, quoi. Vous avez envie, votre fils, votre petit-fils vient vous dire un jour, « Oh, tiens, je vais faire un maraîcher, j'ai un hectare, là, et puis je vais faire du bio, et puis je vais peut-être même prendre un âne pour travailler, tout ça. » Dans ces conditions-là, c'est chaud, quoi. C'est très, très chaud. Et moi, je pense que c'est même pas jouable. Et on a la preuve, c'est qu'on a installé tout un tas de jeunes, notamment dans les situations de maraîchage des 10 dernières années, on a accompagné, parce qu'il y a une vague aujourd'hui, hein. C'est un revival de l'agriculture, mais je vous rassure, c'est pas une vague qui va engloutir la France. Et de gens qui viennent nous trouver, qui quittent la société, qui désertent un peu ou leur précédent métier ou ce qu'on leur fait comme proposition de métier. Tiens, presque toi, Hélène. Et qui viennent nous trouver, alors du coup, pour rentrer dans la production agricole, et qui se sont installés, on a les premiers, il y a 10 ans, et qui sont en train de lâcher. Ils lâchent prise, là. Les maraîchers, ils ont le dos cassé. Ils pensaient que l'élevage était trop compliqué, ça prenait trop la tête et que ça bouffait la vie. Ils se rendent compte que le maraîchage est encore pire, mais ça, on le savait, on avait beau leur dire, ils ne comprenaient pas encore. Et ils se rendent compte surtout qu'ils sont tout seuls, chacun dans leur coin, à produire à fond. Et puis alors maintenant, la dernière couche et le dernier constat qu'ils font, c'est que le marché est saturé. Et notamment par le modèle industriel qui s'est emparé de ce créneau-là. Parce qu'on est dans des créneaux, dans des compétitions, dans des marchés. Donc installer 1 million de paysans dans ces conditions-là, on s'est regardé, on s'est dit, on a écrit ça, on va l'assumer, mais c'est pas ça. Et le pas ça, aujourd'hui, c'est de dire, il faut une société, pas une société avec des paysans, parce que là, on va vers une société sans paysans, hein. C'est clair et net, il y a des fermes aujourd'hui, expérimentales certes encore, qui produisent sans un travailleur sur la terre. Les travailleurs, ils sont dans les labos, en train de surveiller les écrans d'ordinateur, les robots, pour voir comment ça se passe bien, c'est expérimental, il faut les surveiller, il y aura un jour où il n'y a plus besoin de les surveiller. Dans à peu près toutes les productions, ça existe. Donc ça, c'est la société sans paysans qu'on a devant nous. Et peut-être qu'elle est souhaitable. Si elle est souhaitable, il faut qu'on voit comment on fait régner la démocratie là-dedans et comment on s'alimente tous. C'est pas gagné. Si elle n'est pas souhaitable, il faut qu'on ait une société, du coup, avec des paysans, qui serait une société où il y a un million et demi de paysans qui produisent, mais pour nous nourrir comme nous le souhaitons, mais du coup, qui vont tirer sur la paillasse et qui risquent à tout instant de lâcher. Donc, la proposition politique, mais là, ce n'est pas écrit, et on ne l'a pas écrit, voilà, tout simplement, mais c'est de dire il nous faut une société paysanne. Ce n'est pas une société avec des paysans, c'est il nous faut une société paysanne. Il nous faut une société dans laquelle 10% de la population va produire de l'alimentation, sans doute pour elle, et aussi pour les autres, évidemment. Et ça, c'est un tout autre modèle politique, et c'est celui-là qu'il faudra opposer au modèle de société sans paysans, de la Startup Nation. C'est celui-là, le seul, qui est économiquement viable et qui rassure sur la santé de ceux qui vont produire l'alimentation. Et vous me direz, mais là, vous rêvez complètement. Eh bien, oui, on rêve, certainement, mais il y a des politiques publiques aujourd'hui qui sont allées dans cette voie-là. C'est d'ailleurs en les examinant qu'on s'est dit, mais oui, évidemment, qu'est-ce qu'on a pu être cons. Et je citerai une qui est l'Andhra Pradesh, qui est une république indienne de 55 millions d'habitants, qui a décidé que la politique publique agricole de l'État se ferait sans pesticides et avec un minimum de machines, et qui a calculé qu'il faudrait plus de 10% de la population pour faire face à ça. Alors eux, ils partent de beaucoup moins bas que nous, parce qu'ils doivent être encore à 5 ou 6% de producteurs dans la population, donc ils n'ont jusqu'à doubler le chiffre. Et voilà, c'est cet éclairage-là que si nous, la question sur le travail, parce que reprendre la terre aux machines, ça veut dire travailler. Travailler à la place des machines. Les machines nous ont piqué nos revenus parce qu'elles nous ont piqué notre travail. Il y a l'impossibilité de vivre comme on le pensait. Les 68 ans attardés se rappellent des slogans écrits sur les murs, celui qui travaille est perdu, ne travaille jamais, des choses comme ça. C'est une génération, la mienne, hein, où on a passé notre... On pensait pouvoir se passer de travail, et on a passé notre temps à travailler, et maintenant on s'inquiète pour ceux qui n'ont pas de travail. Donc les contradictions humaines, on les vit terriblement. Mais il faut qu'on sache, voilà, est-ce qu'on veut travailler ou pas. Parce que il y a des exemples terribles, hein. Et quel travail, tout ça, c'est ça, mais on peut pas... On peut pas... Là, les gens qui viennent de la ville, ils nous disent, mais le travail dans les bureaux, moi j'ai gagné de l'argent, mais ça m'écœure, j'en veux plus, donc j'arrive, je me prends mon argent, toi t'as dû vivre ça chez toi dans les fruits, j'achète 3 hectares de vigne et je fais du vin naturel, et puis je gagne ma vie comme ça. C'est pas tout à fait la révolution, ça, quand même. Quoi. Mais ça existe, il y a des gens qui sont saturés du travail qu'on leur fait faire, et puis il y en a qui n'ont même plus de travail. Donc les conditions de travail qu'on nous offre, non seulement ne nous permettent pas de bouffer comme on voudrait, mais en plus, apparemment, frustrent tout le monde. Il faut qu'on bosse là-dessus, il faut qu'on travaille ensemble là-dessus. Et l'alimentation est un endroit où on peut parler ensemble. On parlerait d'agriculture, on n'arriverait pas à parler avec vous, parce qu'on se mettrait à parler de la PAC, on se mettrait à parler de toutes les contradictions que tu soulevais tout à l'heure sur l'économie. Mais sur l'alimentation, oui, on peut parler avec vous, parce que c'est des choses qu'on partage à peu près, quelque chose comme ça.
C'est ainsi que se termine cette conférence ou non-conférence de Jean-Claude Balbeau et Emmanuel Haas de l'Atelier Paysan. Non-conférence donc qui est en regard d'un livre manifeste qui s'appelle « Reprendre la terre aux machines » et que vous trouverez dans votre librairie préférée. Vous pouvez retrouver cette deuxième partie de la conférence ainsi que la première, comme je le disais en introduction, sur le site des Nouveaux Terriens, www.lesnouveauxterriens.fr, avec un certain nombre de citations qui sont extraites de la non-conférence. Je vous remercie de l'avoir écouté et on se retrouve donc pour d'autres aventures et explorations sur votre radio préférée. Bonne journée, bon appétit et à la prochaine.